Vous écoutez, on lit pour vous.
L'art et la culture, est-ce pour moi? Un texte d'Isabelle Ducharme, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167, de la revue Paraquad. Voilà toute une question pour une bonne entrée en matière. Je ne rentrerai pas dans les questions philosophiques du style « Qu'est-ce que l'art? Est-ce que ceci ou cela est vraiment de l'art? » etc. Je pense que chacun, chacune a son interprétation et son appréciation de ce qui peut être identifié comme de l'art ou une activité culturelle. Pour ma part, je suis interpellée à la fois par la participation et l'observation. J'adore faire mes propres cartes d'anniversaire ou faire des cadeaux que j'ai pu créer d'une façon ou d'une autre. Je m'adonnerais même au karaoké si je trouvais les partenaires qui ont envie de le faire avec moi. Je suis également une grande consommatrice de festivals de musique, de spectacles, de danse et d'humour, en plus d'apprécier des visites au musée. Ce qui est intéressant au Québec, comme ailleurs dans le monde, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Si vous vous informez sur les sorties et visites à faire dans notre province en vous abonnant aux infolettres, maintenant que les journaux de quartier sont en voie de disparition, ou en vous rendant dans les bureaux d'information touristique régionaux, vous découvrirez plein de festivals et même des activités créatives gratuites dans les parcs et les maisons de la culture de la plupart des régions, villes et quartiers. N'oubliez pas qu'il y a aussi une panoplie d'organismes qui pourront répondre aux besoins des personnes en situation de handicap partout au Québec et qui peuvent devenir une référence pour en apprendre plus sur l'accessibilité locale et les activités. Les regroupements d'organismes de personnes handicapées, présents dans la majorité des régions du Québec, peuvent vous référer au bon endroit pour obtenir l'information désirée. Certaines régions ont des organismes spécifiques, comme à Montréal, où Vie Autonome Montréal organise des activités ou peut vous aider à trouver celle que vous recherchez. Quelques idées d'activités. Je vous partage ici quelques exemples de ce que j'aime bien faire et qui peuvent peut-être vous donner des idées pour sortir de votre routine ou de vos activités habituelles. À Montréal, je visite les installations d'Espace pour la vie, Jardin botanique de Montréal, Insectarium, Biodôme et Planétarium. Il existe des forfaits pour visiter l'ensemble des espaces et une gratuité à l'accompagnateur avec la carte CAL, Carte Accompagnement Loisirs. J'aime particulièrement retourner au jardin pour voir évoluer les fleurs, mais également pour les spectacles gratuits sur le site les dimanches en été. Je suis une adepte des festivals de toutes sortes. Les plus fréquents sont ceux de musique, bien sûr, mais j'aime bien aussi les festivals de nourriture et les foires à thèmes variés. Il est certain que l'accessibilité y est présente de façon inégale, mais, heureusement, il y a un vent général de conscientisation et la mise en place de mesures d'intégration. Résidant à Montréal, je suis adepte des grands classiques de la région, comme le Festival de jazz, les Francofolies, etc. Je me dois quand même de citer le Festivois de Trois-Rivières à titre d'exemple à suivre. Nommé ainsi depuis 2008, il a gagné une vingtaine de prix pour divers aspects de qualité, dont le développement durable, l'inclusion et l'accessibilité. L'inclusion et l'accessibilité y sont présentes d'une multitude de façons, dont la gratuité de spectacle, la voiturette pour se déplacer d'un site à l'autre lorsque nous avons besoin d'aide pour nous déplacer, ou encore les espaces réservés durant les spectacles. Certaines représentations ont même lieu dans des centres de personnes âgées pour offrir des spectacles aux personnes qui ne peuvent pas se rendre sur le site. Enfin, comme je le disais au début de ma chronique, j'ai beaucoup de plaisir à créer moi-même. Je retourne donc à l'occasion chez Céramique Café, décorer un objet à donner en cadeau. 3 heures sur place à créer sans penser à autre chose. La meilleure façon de laisser les soucis à la maison est de penser au bonheur de préparer un cadeau. Cela pourrait également être pour un cadeau à soi-même, pour décorer son environnement. Avant de dire que les activités artistiques et culturelles ne sont pas pour vous, je vous encourage à en essayer quelques-unes. Vous pourriez être surpris ou surprise. C'était « L'art et la culture, est-ce pour moi ?» un texte d'Isabelle Ducharme, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167, de la revue Paraquad.
Ce qui change pour votre portefeuille en 2026, un texte d'Annabelle Caillou et Alex Fontaine, paru le 30 décembre 2025 dans Le Devoir. Vous préparez votre budget pour 2026? Attendez-vous à payer l'épicerie et l'électricité plus cher? Des allègements fiscaux pourraient par contre vous aider à faire des économies. Le Devoir fait le point sur les changements qui auront un effet concret sur votre portefeuille en 2026. Alimentation. Pas de répit à l'épicerie. Le prix des aliments devrait augmenter de 4 à 6 % au pays et même plus au Québec, selon une récente étude dirigée par l'Université Dalhousie. Une famille moyenne de 4 personnes doit s'attendre à débourser près de 1 000 de plus pour se nourrir durant l'année 2026. La viande, bœuf, veau, poulet, devrait connaître la plus forte hausse, jusqu'à 7 %. Le prix des produits secs, comme les pâtes, les noix ou les épices, devrait aussi grimper jusqu'à 6 %. Les prix des produits laitiers, des fruits et des produits de boulangerie devraient augmenter plus modestement. Logement. Québec, ayant décidé de réformer en profondeur sa méthode de calcul de l'indexation des loyers, le Tribunal administratif du logement, TAL, ne fera pas de recommandation de hausse pour 2026. Il diffusera plutôt, fin janvier 2026, une moyenne de l'indice des prix à la consommation, IPC, général, sur 3 ans. Il s'agit désormais du principal critère du calcul auquel peuvent s'ajouter des ajustements liés aux taxes, aux assurances et aux travaux. À quoi s'attendre donc? À une augmentation probablement moindre qu'en 2025, où le TAL avait recommandé une hausse de 5,9%, un record en 40 ans. D'après la Société d'habitation du Québec, elle aurait été de 4,5% avec le nouveau calcul. Immobilier. Sans surprise, les prix immobiliers devraient continuer d'augmenter en 2026. Royal Lepage prévoit une hausse moyenne du prix des propriétés de 7% dans la province. Dans la ville de Québec, le prix des logements, tous types confondus, pourrait grimper jusqu'à 12%. À Montréal, la hausse moyenne prévue plafonne à 5%. Taxes municipales. Plusieurs municipalités ont déjà annoncé des hausses de leurs taxes foncières pour 2026. Si certains propriétaires seront relativement épargnés, pour d'autres, la facture risque d'être salée. À Québec, par exemple, la taxe foncière augmentera en moyenne de seulement 1,9%, tandis qu'à Lévis, elle grimpera de 3,5%. À Montréal, il faut consulter le budget du 12 janvier 2026 de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada. Les arrondissements avaient déjà annoncé leur couleur. Les taxes locales grimpent particulièrement dans Verdun, plus 24,5%, Rosemont-la-Petite-Patrie, plus 20,5%, et Villeray-Saint-Michel, parc extension, plus 13,9%. Et sont plus modérés dans Anjou, plus 2,7%, Saint-Léonard, plus 2,8%, et Montréal-Nord, plus 3,4%. À Longueuil, la taxe foncière augmentera en moyenne de 3,4%, tandis qu'à Laval, elle sera majorée de 4,3% pour les propriétaires d'une maison unifamiliale et de 5,6% pour les propriétaires d'un appartement en copropriété. À Sherbrooke et à Gatineau, les hausses seront respectivement de 2,8% et de 3%. Énergie. Électricité. La Régie de l'énergie examinera cet hiver les demandes de hausse tarifaire d'Hydro-Québec pour 2026, 2027 et 2028. La Société d'État propose des augmentations annuelles de 3 % pour les clients résidentiels et de 4,8 % pour les clients commerciaux et industriels. Pour un consommateur résidentiel, la hausse mensuelle serait en moyenne de 2,40 $ pour un logement de 5 pièces et demie et de 6,70 $ pour une maison de taille moyenne. Gaz naturel. La hausse globale des tarifs d'énergie autorisés par la Régie de l'énergie s'élève à environ 1 % pour la période comprise entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026. Pour une maison unifamiliale construite récemment, cela devrait représenter une augmentation de quelque 9 $. Transport. Permis de conduire. C'est la fin du congé de paiement de la contribution d'assurance du permis de conduire. Après avoir payé seulement 25 $ leur permis ces 4 dernières années, les automobilistes devront payer le double, environ 50 $, et les motocyclistes, le triple, environ 73 $, pour l'année 2026. Ces montants demeurent toutefois bien inférieurs aux tarifs habituels. Un permis de classe 5 sans points d'inaptitude coûte normalement 121 $. Grâce au surplus du Fonds d'indemnisation des accidents de la route, la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC, a pu offrir, entre 2022 et 2025, un congé de paiement de la contribution d'assurance du permis. Pour 2026, les conducteurs bénéficient quand même d'une remise de 75 %. Immatriculation. Après d'importantes hausses en 2025, la taxe d'immatriculation augmentera très modérément en 2026. Dans la grande région de Montréal, les automobilistes paieront 3,45 $ de plus, soit un total de 183,45 $, incluant la contribution de 30 $ au transport en commun. À Québec, l'augmentation sera de 1,10 $, soit une facture de 91,10 $. Transport en commun. Les usagers du transport en commun de la grande région de Montréal devront aussi payer plus cher en 2026. L'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, prévoit augmenter le coût des titres de transport de 3 % en juillet. À Québec, le réseau de transport de la capitale, RTC, haussera aussi ses tarifs en juillet. L'abonnement mensuel coûtera, par exemple, 10 $ de plus, soit 115 $. À Gatineau et à Sherbrooke, les changements tarifaires sont en vigueur depuis le 1er janvier 2026. À Gatineau, l'allée simple est vendue à 4,75 $, soit 25 cents de plus, tandis que le titre mensuel s'élève à 116,50 $, plus 3,50 $. Du côté de Sherbrooke, il faut débourser 92 $ pour le titre mensuel, soit 2 $ de plus. Taux d'intérêt. Après avoir procédé à 3 baisses, totalisant 75 points de base en 2025, le taux directeur est maintenant de 2,25 %. Les opinions divergent sur la direction que prendra la Banque centrale en 2026, le contexte économique demeurant empreint d'incertitude. La Banque nationale prévoit une hausse de taux seulement au dernier trimestre, tandis que Desjardins s'attend plutôt au statu quo. La Banque du Canada elle-même ignore ce qui nous attend et reconnaît avoir de la difficulté à prévoir le moment et la direction du prochain changement de taux. Modification au régime fiscal. Le régime fiscal québécois est indexé à 2,05 % depuis le 1er janvier 2026. Le montant personnel de base, seuil en dessous duquel un contribuable ne paie pas d'impôts, passera de 18 571 à 18 952 $. le montant annuel de base reçu par un prestataire de l'aide sociale sera haussé de 9 408 $ à 9 600 $. Le taux de cotisation au régime des rentes du Québec, RRQ, baissera de 1,85 et celui du régime québécois d'assurance parentale de 13 %. À partir de juillet 2026, les prestations annuelles du crédit d'impôt pour la solidarité augmenteront de 1 256 $ à 1 281 $ pour une personne seule. Au total, les mesures présentées dans la mise à jour économique du gouvernement québécois en novembre dernier, dont celles-ci entraîneront des gains moyens de 182 $ par particulier pour l'année financière 2026-2027. C'était Ce qui change pour votre portefeuille en 2026, un texte d'Annabelle Caillou et Alex Fontaine, paru le 30 décembre 2025 dans Le Devoir.
Une dérive autoritaire qui doit être corrigée. Un texte de Marie-Andrée Chouinard, paru dans Le Devoir du 8 décembre 2025. Le diable se camoufle-t-il dans les détails? Certains projets de loi présentés ces derniers temps par le gouvernement de François Legault affichent une façade étincelante, mais contiennent néanmoins des dispositions susceptibles de provoquer l'effritement de l'État de droit. Superbe illustration de cette dérive, le projet de loi 1 sur une constitution du Québec devait être un moment rassembleur pour la nation québécoise, mais voilà qu'il suscite inquiétude et méfiance. Sous couvert d'affirmations nationales, ce projet cache des dispositions qui menacent les fondements mêmes de notre société démocratique. Ce projet de loi constitutionnel de 2025 sur le Québec est tombé sans avoir fait l'objet de réelles consultations populaires, malgré le fait que la nature du sujet commandait cette opération. Les critiques fusent et continueront de fuser lors de son étude en commission parlementaire, notamment sur l'interdiction faite aux organismes publics d'utiliser des fonds publics pour contester certaines lois québécoises. Cette disposition dresse une très longue liste d'organisations visées, allant des ordres professionnels aux universités, municipalités, commissions scolaires, établissements de santé, etc. Autant d'institutions qui se verraient privées de leur droit fondamental de contester devant les tribunaux des lois qu'elles jugent inconstitutionnelles. Le projet de loi prévoit également que les administrateurs de ces organismes pourraient être tenus personnellement responsables et contraints de rembourser au gouvernement les sommes utilisées pour de telles contestations. En entrevue avec Le Devoir, le bâtonnier du Québec parle avec franchise de l'impact potentiel de cette loi au caractère « intimidant » sur des organismes représentant la société civile, interdit désormais de contestation officielle. Citation : Le Québec, ce n'est pas la Corée du Nord, là. Cela dit, dans toute société où on a vu dans le passé des affaiblissements de l'État de droit, ça commence toujours par l'affaiblissement du droit à la liberté d'expression. Ça commence toujours par l'affaiblissement du droit à la liberté d'association, explique Maître Marcel-Olivier Nadeau. Fin de citation. Le barreau a raison d'exprimer de vives inquiétudes. Il plaide, dans les faits, pour le maintien d'un certain équilibre des forces en présence. Citation, ce qui garantit la santé de notre régime démocratique. Fin de citation. Toute disposition législative vouée à l'affaiblissement de l'État de droit devrait être dénoncée vigoureusement. D'autres groupes s'alarment. Le Bureau de coopération interuniversitaire, par exemple, qui voit dans le projet de loi 1 des dangers pour la liberté et l'autonomie universitaire et le risque de créer un climat d'autocensure institutionnelle. À la tête du réseau de l'Université du Québec, Alexandre Cloutier ne peut s'empêcher de dresser un parallèle avec la situation américaine où l'offensive contre les universités américaines utilise le levier du financement fédéral pour contraindre les institutions à se soumettre aux volontés idéologiques du gouvernement. Cela ne rappelle-t-il pas la logique à l'œuvre dans le projet de loi 1? Amnesty International Canada francophone condamne aussi le projet de loi. L'Organisation de défense des droits de la personne rappelle que la restriction de l'utilisation des fonds publics pour contester des lois constitue une atteinte au droit de toute personne à recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits. L'organisation dénonce un projet, citation, qui manque à sa responsabilité fondamentale de garantir à toute personne sur son territoire l'ensemble des droits humains. Fin de citation, ce qui met en péril l'État de droit au Québec. Quelle est cette tendance autoritaire, entre guillemets, qui colore de plus en plus des projets de loi proposés par la Coalition Avenir Québec? Le numéro 3, loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail. Le numéro 89, loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. Le numéro 2, loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services. Tous ont en commun une affirmation de l'autorité québécoise, un dispositif quelconque de renforcement de l'État et une forme de contrôle des institutions. Le 29 novembre 2025, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Montréal pour manifester une opposition commune à ce vent de contrôle, laissant les populations de plus en plus impuissantes face à l'omnipotence de l'État. L'affirmation nationale ne peut se faire au détriment de l'État de droit. La protection de la langue française, de la laïcité, la rédaction d'une constitution, l'établissement d'une ligne de soins de santé forte, tout cela ne justifie pas qu'on bâillonne les contre-pouvoirs. Le caractère distinct de la nation québécoise ne s'affirmera pas en imitant les dérives autoritaires que nous observons ailleurs dans le monde. Il est encore temps de corriger le tir. C'était Une dérive autoritaire qui doit être corrigée, un texte signé Marie-Andrée Chouinard est paru dans Le Devoir du 8 décembre 2025.
Un nouveau service en français pour les aînés et leurs proches aidants. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 17 novembre 2025 dans La Voix acadienne. Santé IPE lance le tout premier programme de jour pour adultes en français de la province. Conçu pour les personnes âgées francophones et bilingues, ainsi que pour leurs proches aidants, ce service offre un milieu d'accueil et de soutien taillé aux besoins de tous. Le programme est offert au centre communautaire d'Abraham Village, ancien Club 50, situé au 8938 route 11 à Abraham Village. Les activités s'y déroulent du lundi au jeudi, de 8 à 16 heures. Pour Lisa Gotel, responsable des projets francophones à Santé IPE, l'ouverture de ce service est une étape importante. C'est un service qui est enfin offert en français pour les résidents du comté de Prince, de Stanley Bridge à Tignish, souligne-t-elle. Les personnes inscrites au programme de soins à domicile peuvent s'adresser à leur coordonnateur. Les autres peuvent faire une demande en ligne ou par téléphone pour enclencher le processus d'inscription. Notre objectif, dit-elle, est d'aider les gens à rester chez eux le plus longtemps possible. Ça aidera à alléger la charge des hôpitaux et soutenir les proches aidants. Une évaluation des besoins suit chaque demande afin d'adapter les services au profil de chacun. Par exemple, si une personne doit s'absenter pour faire l'épicerie et ne peut pas laisser son conjoint seul à la maison, elle peut le confier au centre. Grâce aux bénévoles de l'Association des francophones de l'âge d'or de l'île du Prince-Édouard, un transport peut aussi être organisé si nécessaire, ajoute Mme Gottel. Les personnes vivant seules ou à risque d'isolement sont aussi invitées à se joindre aux activités. Le programme offre un milieu accueillant et stimulant où les échanges sont toujours enrichissants. On y propose des activités comme de l'artisanat, des exercices légers et de la stimulation cognitive. Chaque visite inclut une collation et un repas chaud offerts sans frais aux participants. Nos préposés sont formés pour offrir un appui attentif et respectueux, précise Mme Gottel. Ce programme améliore la qualité de vie des participants et offre aux proches aidants le répit dont ils ont besoin. Il répond surtout à un besoin exprimé depuis longtemps, avoir accès à des services de santé dans sa langue. Le programme s'adresse aux personnes francophones ou bilingues âgées de 65 ans et plus. Les demandes se font en contactant soit le bureau du programme de soins à domicile du comté de Prince au 902-888-8440 ou en remplissant un formulaire d'inscription sur le site de Santé IPE. Pour Lisa Gottel, ce projet répond à une demande. Offrir des soins qui respectent les besoins des habitants francophones et bilingues de l'île. C'est une façon concrète d'aider nos aînés à vivre mieux, près de chez eux et en français. C'était un nouveau service en français pour les aînés et leurs proches aidants. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 17 novembre 2025 dans La Voix acadienne.